Bienvenue dans le podcast de Marie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Alexandre.
Alors on va parler de ta séparation, puisque le thème du podcast c'est le divorce et les séparations, hein, pas forcément être marié. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment s'est passée ta séparation avec ta femme? Je ne sais pas si tu étais mariée du coup.
Oui, nous étions mariés. On s'était mariés en 2005.
D'accord.
Et on s'est séparés en 2007.
Ok.
Donc c'était un couple, un mariage express.
Rapide.
Voilà.
Ok. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour la séparation?
Alors la séparation c'est assez simple. Elle m'a trompé avec un de ses collègues de travail.
D'accord.
Et donc je l'ai découvert quelques mois après.
D'accord.
Et donc on s'est séparés assez brutalement, du jour au lendemain. Nous avions un enfant ensemble, voilà,
okay.
qu'on a eu en 2005 également.
D'accord.
Et donc ça a commencé comme ça.
D'accord. Et donc vous vous êtes mis ensemble, vous avez eu un enfant tout de suite, c'est bien ce...
Alors on s'était mis ensemble en 1998.
Ah. Okay.
Donc ça remontait quand même un,
oui.
petit peu,
okay.
un petit peu plus longtemps.
D'accord.
On s'est mariés, on a eu un enfant dans la foulée.
Okay.
Et je ne sais pas si c'était un stress post-grossesse.
Ouais.
Mais en tout cas, il y a eu un peu un pétage de plomb, je pense, de sa part.
D'accord.
Et voilà, donc elle est partie avec un de ses collègues de travail
okay.
en 2007, à l'été 2007, suite au fait que j'avais découvert effectivement la tromperie.
D'accord.
Voilà, et donc la rupture était consommée entre nous déjà à ce moment-là.
Okay.
Il n'y avait pas forcément de retour en arrière possible.
Ok, et tu te doutais de rien?
Non.
Jusqu'à ce que tu découvres ça?
Non, pas du tout, parce qu'on avait, c'est vrai, un enfant en bas âge, donc on était quand même assez occupés par les contraintes d'un enfant petit.
Okay.
Et donc j'étais loin de m'imaginer ça, surtout que moi de mon côté j'avais commencé un nouveau travail.
D'accord.
Donc j'étais en période d'essai.
D'accord.
Donc avec
ouais.
aussi pas mal de boulot, pas mal de voilà, des horaires un peu tardifs, etc.
Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce que toi tu as décidé quand tu as appris ça? Comment ça s'est passé?
Alors moi ça a été un peu le ciel qui m'est tombé sur la tête, clairement. Je m'y attendais pas du tout. En termes d'expérience amoureuse, c'était quand même une de mes premières quand on s'était mis en couple.
Tu avais quel âge quand tu t'es mis avec elle?
J'avais 20 ans.
Ah oui.
Ouais, 19-20 ans.
Okay.
Donc, bon, j'avais connu quelques filles avant, mais c'était quand même des choses, on va dire, assez anecdotiques.
Okay.
Donc là, c'était la première relation, une bonne relation de confiance entre nous pendant un certain nombre d'années, un premier enfant. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu c'est un peu l'image du ciel qui te tombe sur la tête du jour au lendemain.
Ouais.
Quand tu découvres SMS, je passe les détails.
La vache, mais tu l'as découvert comment?
Je l'ai découvert par hasard. Sur son téléphone qu'elle avait laissé sur la table du salon.
Bizarre.
Ouais, bizarre, mais à l'époque les téléphones n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. C'était
ouais.
pas des smartphones.
Okay.
Donc il n'y avait pas autant de code, il n'y avait pas autant de sécurité et
ouais.
les SMS apparaissaient sur l'écran.
D'accord.
Et donc je ne suis pas de nature à consulter les SMS de mes copines. Mais là en fait ça n'arrêtait pas de sonner, il y avait plein de messages. Et donc je découvre effectivement qu'il y a un homme à l'autre bout du téléphone qui lui écrit des messages, tu me manques, on a passé du bon temps ensemble.
D'accord.
Tout ce genre de choses qui blessent.
Oui.
Et qui a occasionné, vu qu'elle était là à ce moment-là, elle était dans l'appartement, pas au même endroit, mais qui a occasionné une bonne grosse dispute, comme on dit.
Je comprends.
Voilà. Et donc elle est partie dans la foulée le soir même. Donc avec notre fils, elle est partie. Je pensais qu'elle allait prendre l'air, et en fait elle n'est jamais revenue.
C'est pas vrai.
Voilà.
Donc, elle est partie avec ton fils et...
Elle est partie. Alors après, j'ai découvert beaucoup plus tard qu'elle était partie chez ses parents.
D'accord.
Mais en fait, effectivement, ça a commencé comme ça, tambour battant. Donc
okay.
je me suis retrouvé seul dans l'appartement avec pas de nouvelles, puisqu'elle avait coupé les ponts, coupé le contact, la communication. Moi, j'avais essayé de la rappeler le lendemain, mais pas de son, pas d'image en fait. Et pendant quelques jours, j'ai pas eu de nouvelles.
Oh, la vache.
Donc c'était quand même assez difficile.
Ah ouais, voilà. Tu m'étonnes. Et donc, vous n'avez pas pu discuter, en fait, finalement. Et tu lui as dit, vous êtes disputé.
Alors ça, c'est,
un
point qui est assez marquant dans ce que tu cites. C'est qu'effectivement, on n'a jamais pu discuter vraiment à l'époque. Et je dirais que globalement, c'est un sujet sur lequel on n'a jamais rediscuté.
Okay.
Il n'y a pas eu un moment depuis 2007 où on s'est posé pour mettre les choses à plat.
Mmh.
Et je dirais, essayer de trouver un petit peu un équilibre dans cette situation, cette histoire.
Oui.
Et essayer de comprendre aussi pourquoi elle a fait ça.
Mais c'est ça.
Et pas se mettre tous, moi le premier, en victime, mais essayer de comprendre
oui,
un peu s'il y avait des torts partagés, lesquels ils étaient,
bien
etc.
Sûr.
Et ça, ça n'a pas eu lieu.
Jamais.
Donc non, parce qu'en fait, notre rupture, elle est tout de suite partie, je pense, dans des extrémités assez fortes, notamment en termes de garde, en termes de divorce, en termes de pension alimentaire. C'est tout de suite devenu un espèce de combat et il n'y a pas eu une phase vraiment où on a essayé de régler les choses par nous-mêmes. On a eu des belles familles qui sont intervenues au début par rapport par rapport à notre fils.
Bah oui.
Pour essayer de rabibocher un peu les choses, de faire le tampon,
ouais.
Sur les remises, etc.
Ouais.
Pour donner un petit peu d'air, un petit peu d'oxygène. Mais c'est vrai que nous deux, on n'a jamais vraiment rediscuté de ça. Et ça, voilà, c'est un point important de cette histoire.
D'accord, ouais. Très bien. Donc du coup, comment ça se passe? Vous vous dites, bah, on va se séparer. Donc vous étiez marié, c'est toi qui initie le divorce, enfin la...
Alors c'était un peu plus long que ça. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas de communication du tout, donc on était resté sur un mode de garde alternatif.
D'accord.
À savoir une semaine chacun.
Okay.
Avec les grands-parents.
Donc ils te ramènent quand même
ouais.
ton fils.
Exactement.
Enfin, ils te ramènent ton fils,
voilà.
Quand même.
Et grosso modo, pendant peut-être 6 mois, on a vraiment essayé d'avoir un partage équitable.
D'accord.
Par rapport à notre fils. Donc ça, je pense que ça se passait plutôt bien.
Ouais.
Après, je pense qu'il y a un phénomène aussi qui a beaucoup joué, qui a impacté, c'est les avocats.
Mmh.
Parce que assez vite, au bout de 3-4 mois, on
ouais.
nous a tous conseillé, je pense, chacun de notre côté, de prendre un avocat.
Mmh.
Et au début, c'était bien parce qu'on a pris des avocats qui étaient plutôt des proches. Soit des amis à moi, soit des amis à elle. Donc pas des avocats spécialisés dans le droit de la famille.
D'accord.
Mais des avocats qu'on avait connus dans nos études ou des potes qui étaient devenus avocats.
Et ça c'était bien ?
C'était plutôt sympa parce que du coup c'était fait un peu à l'arrache parce que les procédures sont pas les mêmes dans les différents droits.
Oui.
Mais du coup ça leur permettait d'essayer de, je dirais, de remettre un peu d'équilibre et de nous faire
D'accord.
un petit peu accepter des choses plus facilement.
Okay.
Et en fait, le moment où c'est vraiment parti en vrille, c'est au moment où elle a changé d'avocate et elle a pris une avocate spécialisée en droit de la famille, donc un top 3 France. Et là, ça a été très très dur parce que du coup, on est passé sur vraiment quelque chose d'assez violent en termes de procédure où l'objectif, c'était vraiment de gagner le maximum d'argent par rapport à la pension alimentaire, le maximum de droits de garde, de jours de garde, sans, je pense, qu'elle en ait vraiment formulé le besoin. Mais je pense qu'il y a eu aussi une grosse influence de cette avocate.
Mmh.
Et j'avais rencontré aussi d'autres mamans divorcées qui étaient passées par ce cabinet-là
ouais.
et qui étaient aussi rentrées dans des histoires de conflit. Puisque l'avocate, c'était un peu sa méthodologie de dire « si vous faites appel à moi, vous allez vraiment l'écraser et avoir
D'accord.
une pension alimentaire très importante.
Ouais, » On n'est plus dans le cool, quoi.
On est dans l'argent, on est dans vraiment...
Garde,
exactement. Ouais. Exactement.
Le combat, quoi.
Et moi, l'erreur que j'ai fait, si c'est une erreur, c'est à l'époque j'avais gardé mon pote qui était un avocat fiscaliste basique et il s'est fait plier sur l'année de procédure qui a suivi.
Ah ouais.
J'ai perdu la garde totale, j'ai perdu l'autorité parentale.
Mais, excuse-moi, mais l'autorité parentale, tu peux pas la perdre ?
Eh ben si, on peut. Moi, j'ai des amis qui n'ont plus l'autorité parentale
mais
parce que.
On m'a toujours dit l'inverse, moi.
Ben non, lors d'une remise d'enfant, par exemple, il y a eu des. Pas forcément des violences, mais il y a eu des énervements, des jets de sacs par terre. Ça a été constaté avec une main courante, par exemple. Et j'ai un ami qui a perdu l'autorité parentale pour ça.
Ah, d'accord.
Donc, okay. ça peut aller assez loin quand les personnes sont de mauvaise foi.
Okay.
Donc,
oui.
Je pense qu'il faut être vigilant, justement, sur ces réactions. Et nous, en fait, avec l'avocat que j'avais à l'époque, le premier, c'est vrai qu'on avait sous-estimé la procédure... les dates, donc notamment on était forclos sur pas mal de choses,
D'accord.
sur les pièces qu'il fallait fournir, on n'avait rien fait, on nous avait demandé s'il fallait apporter des témoignages pour prouver que je m'occupais bien d'Alexandre, on n'avait pas fait en fait, on s'est dit ça sert à rien,
oui.
on avait les mêmes amis pendant
bah,
10
oui.
ans, et ça servait à rien de demander des témoignages à des potes, ça me semblait complètement con en fait.
Ouais. Ouais,
donc je ne l'avais pas fait, et quand on est arrivé devant les juges, en face, je me suis retrouvé avec 35 témoignages contre moi, de personnes que je ne connaissais pas. Avec des témoignages quand même assez violents sur tous les sujets et donc j'ai tout perdu, donc ça a été vraiment extrêmement brutal. Donc là je me suis rendu compte qu'il fallait que je change d'avocat.
Mm-hmm.
Donc j'ai été prendre également une avocate extrêmement réputée en droit de la famille sur Paris.
D'accord.
Et la chose positive, c'est que ça m'a permis de rééquilibrer cette histoire. La chose négative, c'est qu'en fait, là, ça coupe définitivement toute possibilité de communication. C'est juste une guerre, en fait.
Oui.
Une guerre qui est très coûteuse en temps,
ouais.
en argent,
ouais.
parce que c'est des avocats qui sont autour de 250, 300, 350 euros de l'heure.
Ouais.
Donc c'est juste l'enfer. J'ai dû faire des crédits à la consommation pour payer ça, que j'ai fini de rembourser il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Donc c'était vraiment n'importe quoi, en fait. Et ça m'a quand même permis de récupérer l'autorité parentale au bout de 6 mois.
D'accord.
Des droits de garde. Donc,
okay, parce que t'avais plus.
J'avais quasiment rien en fait.
T'avais plus de droits de garde, t'avais plus d'autorité parentale, t'avais plus rien.
J'avais plus rien.
Au jugement, t'avais.
J'avais plus rien. Le premier, j'avais plus rien. Et là, en fait, au deuxième, j'ai récupéré tous les attributs normaux qu'on
donne. T'as fait appel du coup.
Un père, ouais.
C'est ça,
ouais.
Ok.
Et en fait, on avait donc du coup en configuration cible. Un week-end sur deux pour moi, la moitié des vacances, certaines vacances en intégralité, comme Pâques ou les vacances de la Toussaint, et la pension qui avait été diminuée par 4. Parce que là aussi, ils étaient partis sur une pension qui était, je crois que ça devait être 1500 euros par mois. On avait le même salaire.
Pour un enfant ?
Pour un
Vous
enfant.
Avez le même salaire.
On avait le même salaire, c'était complètement,
mais c'est ouf.
Complètement aberrant. Et je me mets à la place de certains pères aussi qui ont vécu ça,
ouais.
parce que j'en ai rencontré du coup. Et qui ont beaucoup souffert à la fois émotionnellement de la rupture, émotionnellement du divorce par rapport à leur enfant, et également financièrement. Donc,
Bah oui, puis je pense qu'on a tous envie que ça se passe bien et qu'on puisse communiquer. Et qu'on puisse... Et c'est vrai que quand il y a un avocat comme ça qui arrive et qui veut tout défoncer.
C'est très compliqué. Je pense que le droit de la famille, c'est aussi quelque chose de particulier parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de femmes, quasiment que des femmes, en tant qu'avocate ou en tant que juge.
Possible, oui.
Et ça donne un prisme d'analyse qui est un petit peu biaisé. Je l'ai vécu et j'en avais parlé avec mon avocate, donc la deuxième, qui effectivement m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes dans ce métier qui considéraient que les pères n'avaient pas forcément leur place ou que quand l'enfant était petit, un père ça sert à rien jusqu'à 7-8 ans, etc.
D'accord.
Et donc elle m'avait aussi, par exemple, beaucoup aidé sur le fait de pouvoir changer mes audiences en fonction de la juge. Elle
D'accord.
m'avait dit, là c'était le juge, on va récuser, on va passer sur une autre audience parce qu'avec cette juge-là, c'est mort en
D'accord.
fait.
Okay.
Elle n'aime pas les hommes. Donc on avait repoussé à plusieurs reprises à certaines audiences
D'accord.
pour pouvoir tomber sur quelqu'un d'un peu plus
équilibré. Mais c'était en quelle année ?
Ça devait être en 2010,
okay.
3 ans après.
Je pensais qu'aujourd'hui, justement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement.
Il n'y a pas très longtemps.
Et je pensais qu'aujourd'hui, justement, et c'est vrai qu'avant, les pères étaient un peu mis de côté.
Ouais.
Et moi, je pensais qu'aujourd'hui, la fonction du père était plus importante et finalement était plus écoutée par les juges.
Je sais pas.
Et qu'ils trouvaient un partage.
Ouais.
Mais,
je sais pas. Après, je pense que malgré tout, l'impact le plus fort, c'était celui des avocats.
Ouais.
Je pense que malheureusement, quand il y a une femme ou un homme qui est en situation de détresse psychologique ou mentale, ou en situation de faiblesse, parce que finalement, la rupture, c'est une situation de faiblesse qu'on n'assume pas, le fait de tomber sur quelqu'un qui veut faire de l'argent. Avec pas forcément des bons sentiments derrière, je caricature le trait, mais
je pense qu'ils sont
beaucoup comme ça. C'est le terreau pour avoir des divorces extrêmement compliqués, qui laissent des traces.
Ouais.
Et surtout, en fait, moi, ce qui me choquait le plus, c'est que le bien-être de l'enfant, dans tout ça, il était vraiment rangé, on va dire, en arrière-plan.
Ouais,
quoi.
C'est clair.
C'était pas la priorité.
C'est clair.
Donc la procédure de divorce a duré en tout à peu près 4 ans et demi. Ouais, 4 à 5 ans.
Entre la première audience, l'appel, et après, donc entre la...
Il y a eu deux appels.
Il y a eu deux appels.
Deux appels.
De ta part ?
Ouais, un de ma part, un de sa part, et un dernier de ma part.
D'accord, ok. D'accord.
Donc ça a été très long parce que les audiences sont assez irrégulières. C'est une fois ou deux par an, c'était assez engorgé à l'époque. Donc c'est très très long.
C'est clair.
C'est l'enfer, il suffit qu'on oublie une pièce, c'est repoussé de 6 mois, enfin bref.
Et du coup, qu'est-ce qui est ressorti de cette dernière, donc une audience, un appel, un autre appel, un autre appel, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça, au final ?
Alors, au final, un jugement de divorce plutôt équitable, avec un droit de garde, on va dire, un peu classique.
Ouais, c'est ce que tu voulais ?
Alors oui, c'est ce que je voulais, parce qu'au début, j'avais plutôt demandé une garde alternée, mais je m'étais rendu compte qu'avec mes impératifs professionnels nouveaux, parce qu'entre-temps, j'avais changé de travail, c'était plus compliqué par rapport à mon fils et je voulais pas le laisser
D'accord.
en garde uniquement chez ses grands-parents.
Okay.
Donc je m'étais dit que c'était pas mal d'arriver à un module un week-end sur deux, la moitié des vacances, de manière assez équitable et avoir une pension qui était normale pour assumer ses besoins, mais pas plus.
Tout à fait.
Voilà. Donc ça c'était le point important.
Donc ça t'a, ce qui a été décidé, ça te convenait.
Ça me convenait.
Ça a mis 4 ans, mais au final.
Ça a mis 4 ans et ça a coûté beaucoup trop d'argent pour en arriver là. Mais c'est pour ça que je conseillerais peut-être aux personnes qui vivent ça d'essayer au maximum de négocier entre elles.
Bah oui.
Même si c'est toujours un peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'on a... finalement, on enrichit les fonctions support, les avocats, au détriment de l'enfant.
Exactement.
Ou de la culture de l'enfant après. Si on voulait payer une école plus tard,
tout à fait.
Nous, on a dû penser des sommes juste inconsidérées dans les avocats. Qui lui aurait permis peut-être plus tard d'avoir des études dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieur.
C'est super intéressant ce que tu dis. Écoutez bien, parce que c'est vraiment, c'est vrai, c'est hyper important.
C'est mieux de mettre 100 000 euros pour une école quand il aura 25 ans que dans des frais d'avocat.
Réfléchir à ça, tout à fait, t'as carrément raison. T'as carrément raison. Ok, alors. Donc au bout de 4 ans, donc t'es séparée depuis 4 ans, donc t'as finalement ton fils un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires si j'ai bien compris.
Ouais.
Comment ça se passe? Est-ce que tu as envie de... Enfin, peut-être que tu as déjà eu des histoires, mais est-ce que tu as envie de te remettre avec quelqu'un? Est-ce que tu es trop choquée pour que tout de suite tu aies envie? Ou comment ça se passe par rapport aux femmes? Enfin, voilà. Est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as envie de refaire ta vie? Ou est-ce que tu es complètement dégoûtée et que tu te dis non?
Alors, en fait, c'est assez choquant ce que je vais dire. C'est que...
Vas-y. Il y a peu de choses qui me choquent, mais vas-y.
Dès le moment où j'ai constaté le fait d'avoir été trompé, il y a à peu près tout qui est parti en moi vis-à-vis d'elle, en fait, en termes de sentiments ou de relations. Donc, je n'ai pas souffert vraiment beaucoup de ça. En tout
D'accord.
cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Ça a été plutôt une libération, parce que je me suis dit, c'est clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté... Il y a des choses qui se sont produites à fréquence régulière depuis finalement assez longtemps aussi.
Tu peux pas vraiment pardonner ce genre de choses.
C'était pas le petit coup d'un soir où on peut se poser évidemment et pardonner.
Oui, bien sûr.
Parce que ça peut arriver à tout le monde. Je pense que quand on a un enfant, il y a des priorités et qu'on peut on peut passer outre. Mais là, c'était pas le cas, donc il y avait quelque chose un peu sale, de caché, de d'insidieux, de donc tout de suite, je me suis senti libéré par rapport à cette relation.
Ok, d'accord.
Voilà, malgré le fait qu'on ait passé beaucoup de temps ensemble, presque 10 ans. Donc ça, c'était quand même, certaines personnes autour de moi ne comprenaient pas ça, en me disant, mais quand même, tu dois être atteint, etc. Ben, en fait, je ne l'ai pas ressenti tout de suite.
Mm-hmm.
Néanmoins, j'ai quand même fait un travail psychologique sur moi un an et demi, deux ans plus tard avec un ami qui est psy, parce que je voulais quand même creuser et ne pas non plus considérer uniquement que j'étais une victime.
Ouais.
Parce que souvent le problème dans les divorces, souvent le problème des femmes, c'est qu'elles se croient que victimes, en fait.
Ouais.
Et on a tous des torts,
bien sûr.
Même si ce n'est pas forcément... des torts matérialisables. Ça peut être du laisser aller, le fait de ne pas penser à l'autre, etc.
Tout à fait.
Et donc, cet ami m'a quand même permis de me remettre en question par rapport à certains trucs que j'avais dû louper et que j'ai loupé dans ma relation. Peut-être du laisser aller.
Ça t'a fait grandir, quoi.
Ça m'a fait grandir. Et ça m'a, ça m'a bien mis les choses d'équerre dans ma tête de manière assez stable.
Okay.
Et si tu veux, après, dans la foulée de la séparation, j'ai tout de suite remis le couvert, comme on dit, et je me suis dit, bah. C'est le moment de me remettre un peu sur le marché, comme on dit vulgairement. Même si au début, c'était très dur, parce que comme j'avais passé 10 ans en couple,
bah,
t'as plus les codes, t'as plus les clés.
Et du coup, tu te dis, tiens, je vais tester les sites de rencontres pour rencontrer des gens sur Internet.
Le moment où au démarrage de notre couple, ça existait presque pas. En 98, il n'y avait rien, il n'y avait pas de site de rencontre, il n'y avait rien du tout.
Il y avait
des chats, quoi. C'est tout.
Et il a fallu apprendre.
Et 2000, tu vois, la période 2008-2009, c'était pas le début, mais c'était l'essor un peu des sites de rencontre.
Oui.
Il n'y en avait qu'un, c'était Mythique. Il y en avait un deuxième qui venait d'arriver, c'était Adopte un mec.
C'était c'est vrai.
Quand je me suis séparé, c'est là qu'il a été lancé, je me rappelle, c'était des affiches.
Oui.
Et du coup, je me suis dit, bah, c'est marrant, on va aller regarder ce truc-là.
Carrément, donc t'as été là-dessus.
Donc j'étais sur les sites de rencontre, parce que je trouvais ça peut-être plus simple, dans un contexte où on a du boulot,
alors,
un enfant géré pas souvent finalement, mais quand même une vie assez active.
Ouais, c'est la facilité. Enfin voilà, c'est vrai que ça
facilite
les rencontres.
Et quelque part, on est aussi dans une vie où il y a moins de connexions sur des bars, des restaurants, comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les gens se rencontrent moins quand même dans des soirées sans qu'ils se connaissent. Si c'est des soirées entre collègues, ça peut fonctionner.
Oui.
Mais c'est plus rare aujourd'hui. Alors avec le Covid, on en discute avec des amis, c'est encore pire. Parce que là, les gens sont passés en full virtuel et relations digitales.
C'est clair.
Mais c'est vrai que moi, donc, ça a été d'abord, effectivement, m'inscrire, pas tout de suite, c'était au bout de peut-être 3-4 mois, sur des sites de rencontres.
Ouais.
Et puis en parallèle, alors j'étais pas super actif au début, j'y allais quasiment pas.
Okay.
En parallèle, c'était aussi de me dire, c'est peut-être le moment de partir avec des potes, faire des voyages, des week-ends, Et en fait, on a passé aussi pas mal de temps avec des amis à partir s'éclater dans des pays...
T'as retrouvé ta liberté, quoi.
Exactement, l'Angleterre, des pays de l'Est, des pays du Nord, des pays du Sud, loin, en Thaïlande.
Cool.
Et on a bien kiffé, en fait. On a fait la fête, on s'est détendu, on a rencontré des gens. Et donc, ça a été vraiment aussi un peu un effet libérateur aussi par rapport à ça. Même si j'étais pas malheureux par rapport à ça dans mon couple, on voyageait beaucoup. Donc ça, c'était pas un facteur qui était forcément, on va dire, négatif. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on perd aussi un peu la connexion avec ses amis quand on est en couple, et c'est normal. Et là, c'était vraiment ce besoin de retrouver aussi la connexion avec des potes qui était intéressante. Alors la problématique, c'est que la plupart de mes potes étaient en couple. ou avec des enfants.
Ben
donc
oui,
ça, c'est aussi
moins dispo,
c'est très dur parce que moi, j'avais 32 ans à l'époque. Donc on a été les premiers à se marier dans notre entourage, on a été les premiers à divorcer. Et après, on affronte tous ces potes qui sont tous mariés avec des enfants qui viennent de naître. Donc, j'avais que quelques amis célibataires. J'en avais très peu. Donc, il y en avait 2-3. Donc, c'est vrai que c'était un peu...
T'étais pas dans le bon timing, en fait.
C'était pas
le... Et donc, du coup, ta première rencontre sur un site de rencontre, comment ça se passe?
Alors, ma première rencontre sur un site de rencontre, ça s'est très bien passé. Enfin, première vraie rencontre ou physique?
Où t'as rencontré quelqu'un.
Mais c'est très bien passé. C'était une fille qui était par contre beaucoup plus jeune que moi, donc c'était quand même quelque chose que j'aurais, je pense, pas pu réaliser dans la vie réelle. C'était une fille qui devait avoir 23 ans.
Ah ouais.
Et j'en avais 32.
D'accord.
Donc c'était quand même assez. Et c'était super en fait. C'était super fun. On s'est bien marré. Et c'est vrai que l'avantage de la rencontre virtuelle, c'est que comme on peut quand même discuter avec la personne avant, chatter et tout, ça donne une bonne image de ce que la personne pense, la culture qu'elle peut partager avec toi, ses goûts, etc. Et donc c'est vrai qu'on... J'ai pas eu de déception en fait sur la rencontre et on a passé un bon moment ensemble, quelques jours, et ça s'est bien passé, pas plus.
Vous attendiez pas à plus?
Non, on s'attendait pas à plus, mais c'était un moment vraiment qui était plutôt cool. Il y avait pas de prise de tête derrière, d'engagement, quoi que ce soit, donc là c'était plutôt bien.
Cool. Et est-ce que tu avais envie, enfin, est-ce que tu as eu envie, je sais pas, un an après, deux ans après, peut-être pas tout de suite, de t'engager dans une relation où éventuellement t'habites avec la personne, ou éventuellement que ça aille un petit peu plus loin, que ce soit un peu plus sérieux?
Ouais. Alors, en fait, c'est arrivé assez vite, c'est arrivé un an après.
D'accord.
C'est arrivé un an après, j'ai rencontré une fille, alors que c'était pas sur un site de rencontre. J'ai rencontré une fille par intermédiaire de quelqu'un au travail. C'était la petite sœur d'une collègue et on s'est mis en couple pendant un an et demi.
D'accord.
Et donc tout de suite elle est venue chez moi. Moi ça me posait pas de problème du tout. J'avais pas de garder de de fardeau par rapport à ça.
Et avec ton fils ça se passait comment tu conçois cette
Alors ça a toujours été un peu la complexité, c'est de pas non plus proposer à mon fils une image où il va rencontrer 250 filles. Mais en fait, je dirais que depuis ma séparation, maintenant il y a 14 ans, un peu plus de 14 ans, je ne vais pas faire rencontrer beaucoup de filles, peut-être 3 en tout. Donc plutôt des personnes avec lesquelles on est sûr qu'il y a une potentialité pour aller plus loin dans la relation. Alors c'était le cas avec celle dont je te parle. Tu le sais quand même au bout de, peut-être de 6 mois, où tu te dis là, au bout de 6 mois, c'est peut-être quelqu'un avec qui je peux envisager de faire un bout de chemin avec elle de manière plus sûre. Et donc, généralement, je présentais personne avant peut-être 6 mois, 9 mois à mon fils, quoi. Pour le préserver aussi, quoi.
Et puis toi, t'as ton fils qu'un week-end sur deux, si je me souviens bien, il a des vacances, donc en fait, c'est gérable.
Exactement.
C'est plus compliqué pour des gens qui ont les enfants tout le temps.
C'est plus compliqué pour les femmes, qui notamment, généralement, les enfants en gardent tout le temps. Et du coup, sont obligés de s'arracher les cheveux pour rencontrer quelqu'un et tout de suite pas le mettre dans la boucle des enfants, etc. C'est très dur.
D'accord. Et ça s'est bien passé quand tu as présenté
Toujours en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a plus de chance, je pense, les hommes, parce que en fait, les filles qu'on rencontre après, qu'elles soient plus jeunes, beaucoup plus jeunes ou du même âge, elles ont généralement plus de patience et plus d'envie pour gérer des enfants qui sont de leur mec en fait. Alors que c'est vrai que quand j'en parle à certains amis, souvent les hommes ils ont un peu plus de réticence quand ils rencontrent une femme qui a des enfants. Soit ils sont dans cette situation et ça les gêne moins, soit les hommes qui n'ont pas d'enfants, ils vont avoir des problématiques parce qu'ils n'ont jamais été pères et ils vont pas savoir gérer en fait.
Et puis ça va les emmerder, je pense aussi.
Ça va les emmerder parce qu'ils veulent partir en vacances tout de suite, en voyage tout le temps, ils se disent mais elle est jamais dispo.
Non, mais c'est clair.
Et c'est un peu compliqué quand même pour une femme, je trouve.
Est-ce que tu as eu, du coup, après une longue histoire, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as habité avec quelqu'un après?
Oui, ça arrivait. Ouais, ça arrivait deux fois. Alors, ça arrivait avec la fille dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. On a vécu ensemble pendant à peu près un an.
D'accord.
Après, j'ai eu une période de relation plus courte, de relation de quelques mois. Et en 2012, je me suis remis en couple avec quelqu'un et on s'est séparés là très récemment.
D'accord. Donc, vous êtes restés quand
même
longtemps.
Donc, on est restés ensemble à peu près 9 ans. Mm-hmm. Une personne avec qui on avait rediscuté de faire un enfant.
D'accord. Elle avait des enfants, elle?
Non, elle était célibataire. D'accord. Malheureusement, elle n'avait pu en avoir. Donc ça, c'était une grosse problématique pour elle à gérer. Mmh. Mais donc oui, on a eu une vie presque maritale. On n'était pas mariés, mais on a vécu 10 ans, quasiment. D'accord. Presque 10 ans ensemble. Ouais.
Ok. Et ça s'est terminé, du
coup ? C'est terminé il y a 2 mois.
D'accord. Voilà. Et ton fils, du coup, comment il a vécu cette...
Alors, on n'en a pas encore beaucoup, beaucoup parlé. D'accord. On a gardé ça pour les vacances.
Ok, bah oui, si c'est récent, je l'imagine.
Voilà, parce que lui n'est pas au courant forcément de tout. Et, voilà, ça s'est fait progressivement depuis 2 mois.
D'accord.
Et donc, ça sera un point important qu'il faut que j'aborde avec mon fils. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez aux enfants de ces histoires de rupture.
Ouais,
surtout les hommes, on a tendance un peu à passer un peu ces histoires-là en disant, bon... C'est pas grave, mais en fait, c'est vrai que les enfants, c'est des
après,
éponges.
C'est des éponges. Après, je pense qu'ils se font à tous les enfants. Et oui. Voilà, mais effectivement, il faut discuter avec eux.
Il faut discuter avec eux, c'est important.
Faut avoir une
mais en tout cas, bon, la synthèse, c'est un peu de dire que la séparation, le fait d'être trompé, d'avoir un mariage, un enfant, un divorce difficile assez jeune, ça m'a pas du tout bridé. Ça m'a pas castré pour avoir l'idée de me dire je me relance à fond avec une fille dans un esprit un peu romantique, de me dire. Ouais. Tout est possible et on remet tout sur la table. Comme
tu te remarierais ou pas?
Ouais, je peux me remarier.
C'est vrai?
Ouais, pas de D'accord, problème, bien sûr. Il faut juste trouver la bonne personne. Ouais. C'est comme avoir des enfants.
Ouais.
Ça me fait pas peur. Bon. Et au contraire, je trouve que j'essaie de prendre avec philosophie les choses en me disant que c'est une leçon de vie, que ça m'a apporté des choses en plus par rapport à ce que j'étais. Ça m'a permis aussi de vivre et de rencontrer des gens assez merveilleux après, et pas uniquement sur le plan amoureux.
Que tu n'aurais peut-être pas rencontré autrement.
Voilà, j'ai rencontré aussi une fille, on n'en a pas parlé, mais avec qui j'ai été vivre à l'étranger pendant un certain temps, pendant plus de 9 mois.
Waouh.
Et donc j'ai rencontré une autre culture, un autre pays.
Génial.
D'autres personnes, en fait.
Ok.
Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup apporté beaucoup d'ouverture sur les gens, sur des métiers différents. On était un peu enfermés dans le même microcosme, de par les études, de par les premiers boulots. Et en fait, on se regardait un peu le nombril, dans le même secteur.
Ça t'a ouvert.
Exactement. Et donc, le fait aussi, ça, c'est un côté un peu positif. Il y a beaucoup de négatifs aussi sur les sites de rencontres. Mais le côté positif, c'est que tu peux accéder et voir des gens de tous les milieux sociaux, de tous les âges, de toutes les origines. Et ça, c'est une richesse que tu n'as pas forcément dans ton quotidien, dans ton quartier, où tu as les mêmes profils, ton travail, tu as les mêmes profils. Et c'est donc, clair. Ça te permet d'ouvrir un petit peu les chakras par rapport à ça.
Ouais, carrément. Alors, j'ai 2 dernières questions, et après, on mange. Pour vous. La dernière question. Est-ce que tu as... Alors, tu as eu apparemment des bonnes expériences sur les sites de rencontres. Est-ce que tu as eu des moins bonnes expériences? Et si tu veux me raconter...
Alors, oui, ça me revient. J'ai eu une expérience qui était moi, une qui était vraiment mauvaise. En fait, c'était une fille qui était en couple, mais qui l'avait pas mis.
Souvent les mecs qui font ça,
c'est souvent les mecs qui font ça, c'est vrai. Et du coup, je me suis retrouvé dans le rôle de la fille. Donc je t'explique rapidement. On sort ensemble, ça se passe plutôt bien. L'hiver se passe bien, ça se plonge avec un dîner. Évidemment, ça se plonge un peu plus que le dîner. Et donc tout se passe bien, sauf que le lendemain matin, la porte sonne, c'était très tôt, c'était peut-être 6h, 6h30. Et donc il y avait un homme derrière, et
mais
donc
non.
C'était son mari. Les enfants n'étaient pas là, le mari était en déplacement, et donc il était revenu plus tôt. Et donc je me suis retrouvé dans une situation assez cocasse, nouveau de ville, exactement. Et je me rappelle encore que j'ai dû partir, me barrer en slip avec mes chaussettes, les affaires dans la main.
Ah, mais comme dans un film, quoi.
Dans un film. C'était pas un samedi matin, mais je crois que c'était un samedi matin parce que justement, ça m'avait paru bizarre que le mec rentre de déplacement un samedi matin et pourtant, c'était le cas.
D'accord.
Et donc,
t'as dit que vous étiez séparé, enfin, qu'il était séparé de son mari.
Ah, mais il n'avait pas du tout parlé d'un mari.
Ah, d'accord.
Ok. Voilà.
D'accord.
Et donc, j'étais quand même chez elle. Elle m'avait fait venir chez elle quand même. Bon. Ce qui est quand même un peu moyen. Et... Donc ça reste, c'était pas une expérience terriblement mauvaise, ça aurait pu plus mal se terminer, je pense, pour moi, mais en tout cas, c'était une drôle d'expérience.
Super. Bon. Dernière question, Alexandre. Je voulais savoir, comment aujourd'hui tu te sens ? Si tu reviens combien d'années, 14 ans en arrière, et aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui ?
Bah, beaucoup mieux, en fait. Beaucoup mieux, parce que plus abouti, plus mûr. Je pense que c'est une caractéristique des mecs. À mon avis, on a 20 ans de différence de maturité avec les filles.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Non, mais je pense qu'aujourd'hui, du coup, j'ai 25 ans, c'est pas mal.
D'accord, ah ouais, ok. Et donc,
je commence à me sentir adulte,
C'est bien.
Je pense que j'ai pas mal changé sur beaucoup de sujets. Je pense que le premier couple, le premier mariage, c'est aussi c'est un brouillon, malheureusement. Ouais. Certains arrivent à le tenir jusqu'au bout et c'est bravo. Mmh. Mais c'est un brouillon, tu fais quand même pas mal d'erreurs ou t'es pas mal égocentrique parce que tu te connais pas bien, parce que tu t'es jamais mis en position de gérer un couple, un enfant, des choses quand même hyper importantes. Et aujourd'hui, fort de cette expérience, j'espère effectivement pouvoir me relancer dans une aventure similaire mais réussie, de construction.
Mais c'est chouette.
Exactement.
Je suis très contente pour toi, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast.
Merci Marie.
Je t'en prie, avec plaisir, et puis bon appétit.